En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Quelle est l'influence des émotions en politique ? Catherine Rouvier, docteur d'État en droit public et sciences politiques, évoque ce point dans son intervention à venir dans quelques instants, tandis que l'ancien ministre de la Recherche et du Budget, François Daubert, évoque la place de l'éthique dans la gouvernance de l'État et dans la finance. Tous les deux participaient au colloque « Regards sur l'homme contemporain » qui se déroulait en mai 2011 à l'Institut de France et dont Canal Académie est partenaire de l'événement. Et ainsi, nous vous proposons la retransmission intégrale des interventions. Commençons sans plus tarder par la communication de François Daubert. On l'écoute.
Je crois qu'avec cette crise financière, qui a maintenant commencé il y a 2 ans et demi, que certains croient terminée, qui a été amorcée par le gonflement d'une bulle il y a maintenant 8 ans, 9 ans, début des années 2000, on assiste sans doute au conflit le plus violent qu'on ait eu depuis longtemps entre l'intérêt général qui a été oublié et des intérêts privés et particuliers totalement exacerbés. Alors, ce qui est intéressant, regardez, c'est comment les différents acteurs ont agi et ont réagi tout au long de cette crise, en essayant de comprendre leur ressort individuel, et en même temps des ressorts collectifs, car il y a eu beaucoup de réactions collectives, ou plutôt, si on entend par collectif, de collectivité, c'est-à-dire en fait de réactions très souvent de lobby ou de corporation, ce qui est un mode d'organisation aujourd'hui très important dans la mondialisation et dans la mondialisation financière. Alors évidemment, la première question qui se pose, c'est comment cette crise est arrivée, quels sont les ressorts intimes si on se place du côté des acteurs. Les anglo-saxons, la critique anglo-saxonne de la crise a soulevé un sujet qui est, je crois, essentiel. C'est le terme de greed, c'est-à-dire l'avidité, comme ressort principal du gonflement de cette bulle financière et des suites des décisions qui ont été prises par des institutions mobilisées en quelque sorte par des acteurs eux-mêmes extraordinairement motivés, presque survitaminés, pardon du terme, par des désirs d'enrichissement et de réussite de pouvoir. L'avidité, c'est ça en réalité, le greed, c'est l'avidité, c'est à la fois une question de pouvoir, davantage de pouvoir, et c'est une question aussi davantage d'argent, donc d'enrichissement. Et quand on regarde la séquence 2002-2008, puis la séquence 2008-2010-2011, et même sans doute celle d'après, on voit bien que ce ressort de l'avidité est extraordinairement important, qu'il se marie aussi avec d'autres ressorts. Car s'il y a eu cette bulle financière, c'est en même temps, dans son côté positif, qui est une croissance mondiale, qui a été mal répartie, mais enfin, qui a quand même permis d'augmenter le niveau de richesse, même si des écarts extraordinaires et historiques se sont constitués au profit des plus aisés, c'est-à-dire dans certains pays développés, le 0,1% ou le 0,01% de la population, et naturellement dans les pays en développement, voire dans les pays émergents, le 0,0001%. Il y a eu cette gigantesque inégalité qui s'est constituée au cours des années. Pourquoi est-ce qu'il y a eu en même temps cette dynamique financière ? Parce que des gens, un groupe, des financiers, pas tous, mais certains, dans le secteur de la banque d'investissement, dans le secteur des hedge funds, dans le secteur de ce qu'on appelle l'equity, dans quelques autres secteurs aussi, ont eu une imagination, alors ça c'est le côté flatteur des choses, ont fait de l'innovation financière, et d'ailleurs je trouve que à l'occasion le mot innovation a été complètement perverti. C'est probablement un des mots les plus importants aujourd'hui pour avoir une vraie dynamique économique. Mais on nous a expliqué quand même pendant longtemps que l'innovation financière, c'était aussi quelque chose de génial. Et ça aussi, c'était porté par un certain nombre de spécialistes, d'experts, de financiers qui ont réussi à monter au fond ce système et à le faire gonfler. Ça s'est traduit donc par une croissance, mais aussi par ces inégalités et pour eux-mêmes, des profits très élevés. Dans les banques, ils ont l'habitude de faire des classements en fonction de la fortune individuelle de leurs clients. Et le concept clé depuis quelques années, c'est d'avoir un maximum de clients qu'on appelle en anglais les HNWI, High Net Worth Individuals. Ce sont 10 millions de personnes, en gros, dans le monde, qui ont une fortune financière, donc en dehors de leur immobilier personnel, d'habitation, supérieure à 1 million de dollars. Vous avez ensuite les Ultra High Net Worth Individuals, HNWI, qui ont une fortune de plus de 30 millions de dollars. Il y en a déjà, effectivement, beaucoup moins. Et puis, vous avez les milliardaires en dollars, il y en a à peu près un millier. Et c'est vrai que cette croissance, en même temps, cette bulle qui s'est constituée, a essentiellement favorisé ces catégories de revenus. Et dans ces catégories de revenus figurent évidemment les artisans de cette expansion. Parce que on a des systèmes, ont été mis en place des systèmes de création de revenus, de création de richesses, de création de valeurs. C'est pas forcément mal, mais les systèmes ont bien été mis en place, qui étaient au fond des incitations et des incitations qui se sont montrées trop souvent perverses. On en a un exemple précis avec la question des bonus, voire des stock options, c'est-à-dire que les bonus ont permis au fond le déploiement d'intérêts privés, d'intérêts particuliers, ceux qui en étaient les bénéficiaires, bien évidemment au détriment de l'intérêt général. Parce que quand on regarde ce que doit faire une banque normalement, je dirais vu par peut-être un homme politique, mais vu par, je crois l'ensemble, c'est le bon sens, c'est de financer l'économie réelle. Et ce n'est pas de financer une sorte de système d'économie virtuelle, qui n'est même pas de l'argent papier, bien que de temps en temps ça se traduise quand même par de l'argent papier ou de l'argent compte en banque. Mais c'est vrai que le système a été très pervers. Le but des banques, normalement, on essaie de le rappeler de temps en temps, c'est là où est la difficulté, c'est par exemple de financer correctement le logement des gens, l'accession à la propriété, de financer le crédit à la consommation, même s'il ne faut pas en faire trop, ce sont des besoins normaux. Ce n'est pas de consacrer, comme ça a été fait depuis 8 ans, une partie très importante de leurs fonds propres, qui servent justement à garantir des prêts à des systèmes de spéculation qui sont devenus de plus en plus pervers par une démultiplication du crédit et en particulier des effets de levier invraisemblables. On est arrivé à un moment en 2008 où l'effet de levier dans certaines banques d'investissement était de 1 à 50 ou 60. C'est-à-dire qu'avec 1 euro ou 1 dollar d'argent disponible, on finançait 70, 80 de crédit. Qu'est-ce qui se passait si on n'arrivait plus à rembourser? Effectivement, il y avait le risque, il y avait la faillite ou le risque de faillite. Et c'est là où intervient une deuxième idée en dehors de l'idée qu'il faut prendre des risques. C'est en même temps de se garantir contre un risque qui tourne mal. Et la crise financière s'explique aussi par la crise d'un certain nombre de produits financiers qu'on a appelés les fameux CDS, Credit Default Swaps, qui étaient des produits financiers qui étaient destinés à s'assurer contre d'autres produits financiers. On en est arrivé de la part du même organisme, donc des mêmes gens, parce que c'est très joli de dire, voilà, c'est une institution, c'est la banque, machin, etc. Mais en même temps, ce sont des acteurs, eux, qui sont de véritables, qui sont des vraies personnes, et qui ont donc sciemment pris des décisions qui étaient, on appelle ça des décisions de conflit d'intérêts, qui étaient en plein conflit d'intérêts, mais en même temps, par rapport auquel ils n'avaient aucun scrupule. Au point qu'on a vu certaines banques, comme Goldman Sachs, émettre des produits financiers, inciter leurs clients à les acheter. Alors, ils ne le faisaient pas très clairement, ils le faisaient en prenant ce qu'on appelle des véhicules spéciaux qui étaient plus ou moins dans les paradis fiscaux, et en même temps, émettre des contrats d'assurance, les fameux CDS, qui pourraient être intéressants financièrement pour ces acteurs devaient, eux, baisser. Donc, on était dans la contradiction totale. Alors, ce sont juste quelques exemples qui montrent que ce grid, cette avidité, je crois, a été fondamentale parce qu'il y avait un désir d'enrichissement. Alors, la question est de savoir, est-ce que ça continue aujourd'hui ? Après qu'il y a eu quand même une touche assez forte. Et il est probable, malheureusement, que ça continue. Parce que là, on arrive dans le pouvoir du politique, le volontarisme politique et ses limites. Il y a bien eu depuis 2 ans une volonté très forte de la part de la plupart des gouvernements, que ce soit le gouvernement européen, français, américain, etc., d'essayer de re-réglementer tout en restant dans un cadre libéral. Mais on a assisté aussi à une remontée en puissance de lobbies très importants, de lobbies financiers qui se sont organisés tranche par tranche. C'est assez extraordinaire de voir, par exemple, comment a fonctionné la tentative, il y en a une, enfin bon, la tentative de création d'une réglementation des fameux hedge funds à Bruxelles. On a vu surgir le lobby des hedge funds, on s'est aperçu qu'il était, chacun le savait, très bien organisé, mais vraiment excellemment organisé, et ils ont réussi, non pas à éliminer le projet de réglementation, mais à en réduire la portée. Il y avait eu le même problème en 2002, en 2001 aux États-Unis, lorsqu'il y avait eu, après l'affaire Enron et une autre affaire d'un hedge fund qui avait fait faillite, l'idée de réglementer les dérivés de crédit. Ça avait échoué parce que le lobby des dérivés, encore plus vaste que celui des hedge funds, s'était non pas réveillé, mais avait fait une action extrêmement énergique auprès des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, on assiste un petit peu à la même chose. Derrière cela, il y a d'énormes intérêts géostratégiques, politique, et c'est vrai que ces lobbies se retrouvent dans le lobby de certaines places financières, en particulier la City de Londres et Wall Street. Paris Europlace, on ne peut pas dire qu'ils aient une puissance de feu très importante, et donc ces lobbies agissent et cherchent à freiner les tentatives de, je dirais, de re-réglementation ou plutôt de régulation qui paraissent pourtant impératives et nécessaires. Donc, pour conclure rapidement, moi je trouve que c'est très intéressant de pouvoir croiser ce qui a été dit par Alain Berthoz et, comment dire, en termes grossiers, la psychologie du décideur financier, voir quelle partie de son cortex s'illumine tout d'un coup quand il voit la perspective de maximiser un gain en démultipliant ces fameux CDO, quelle autre partie s'allume quand il voit qu'il est en pleine crise de liquidité dans sa banque et que le lendemain matin, il n'a pas de quoi couvrir ses engagements, quelle autre partie s'illumine quand il cherche à voir le ministre compétent ou le commissaire européen compétent pour lui expliquer que franchement, il faut quand même continuer de les autoriser à prendre des risques et que bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de mensonges. Il n'y a qu'à regarder toutes les fraudes qui sont révélées en ce moment, entre les conflits d'intérêts, les délits d'initiés découverts dans la bourse américaine, etc. Quelle est la dose de mensonges et dissimulation qu'il y a derrière toutes ces pratiques qu'on a pu constater depuis quelques années. Je vous remercie.
C'était François Daubert, ancien ministre du Budget et de la Recherche sur la question de l'éthique et de la finance, ainsi que les intérêts de l'État. Laissons désormais la place à Catherine Rouvier, maître de conférence à l'Université Paris 11, sur les nouvelles formes de mobilisation de l'opinion en politique, et notamment les sources émotionnelles. On l'écoute.
Je voudrais d'abord remercier, non pas du bout des lèvres et parce que cela se fait, les organisateurs de ce colloque, les remercier car grâce à eux, je vais peut-être tenter de faire mentir Cicéron qui écrivait dans le De Oratore « Orationis omnis actio, opinionibus non scientia continetur », ce qui veut dire, vous l'avez tous compris, l'action de l'orateur repose sur des opinions et non sur la science. Alors, grâce soit rendue aux organisateurs d'avoir voulu la rencontre improbable et difficile entre la politique, art de gérer la société, de lui fixer des règles, et ce qu'est véritablement l'homme. Certes, ils sont là fidèles à une démarche très ancienne. Un jeune homme, Euthydème, qui désirait embrasser la carrière politique, Socrate posait déjà la question fort bien, mais « Sais-tu ce qu'est le peuple ?» La suite de ce dialogue le prouve, Socrate demandait par là « Sais-tu ce qu'est l'homme ?» Ces échanges seraient restés verbaux si Aristote, le descendant des rois d'Athènes, n'avait justifié son surnom de Platone, large d'épaule, en entreprenant de les rédiger. Il fallait avoir le dos large, en effet, pour promouvoir ainsi les idées d'un homme dénoncé à la justice de son pays et condamné par elle à la peine capitale. Ceux qui, à notre époque moderne, ont tenté cette confrontation du politique et du psychologique, cette fois vue du côté de la sociologie et de la science politique et non pas du côté des sciences, des neurosciences, ont également été très souvent punis. Rappelons que Wilhelm Reich, égérie de mai 68, mais aussi auteur d'un remarquable petit ouvrage, « Écoute, petit homme », qui montre à la fois sa sensibilité et sa subtilité, finit dans les geôles américaines. D'autres furent punis d'une autre manière par le silence réprobateur qui s'abattit sur leur œuvre. Ainsi en alla-t-il d'un médecin tenté par la science sociale et père de la psychologie collective, le docteur Gustave Le Bon. La punition, je dois le dire, touche également ceux qui veulent réparer l'injustice et transgressent ainsi un tabou. C'est pourquoi je remercie l'Institut de nous accueillir et les organisateurs du colloque de me permettre de faire donc cet exercice totalement périlleux qui est de confronter un domaine que je connais mal et je demande pardon d'avance, évidemment, des erreurs que je pourrais faire concernant les neurosciences et le domaine de la science politique, de la sociologie, que je connais un tout petit peu mieux. Alors, cette confrontation, afin qu'elle puisse tenir dans les 20 minutes imparties, déjà moins deux, bien, je l'ai centrée sur un seul point, la mobilisation politique. Alors, je confronterai sur ce sujet les intuitions des pères de la psychologie sociale, fin 19e, début 20e, et les découvertes actuelles des neurosciences. La mobilisation, juste un petit mot d'introduction avant d'entrer dans le vif du sujet, la mobilisation est un mot à la mode. Jadis réservé au vocabulaire militaire et guerrier, il se décline aujourd'hui au quotidien dans les médias, les partis politiques, les sociétés de pensée, les organisations de défense en tout genre. Mobilisons-nous. À Clausewitz qui prenait la guerre totale, Ernest Jünger faisait écho en parlant de la mobilisation totale. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans la politique totale et c'est pourquoi la mobilisation a autant d'importance. Alors, posons sans tarder la question qui fâche. L'homme est-il, en politique, doté de cette merveilleuse capacité qu'il a su inventer pour les machines, est-il automobile ? Sinon, est-il téléguidé ? Si oui, par qui ? Comment ? Et pourquoi ? 20 minutes sont un peu courtes, déjà amputées de 3 ou 4. Aussi vais-je me limiter à une forme particulière de mobilisation politique, celle de l'homme en foule. Depuis la Révolution, article de fabrication française, récemment exporté sur la rive sud de la Méditerranée, les penseurs sont obsédés par les massacres d'une cruauté inouïe auxquels s'est livré le peuple de Paris et d'ailleurs, obsédé aussi par les récits ou les tableaux montrant une foule spectatrice des décapitations quotidiennes, ivre de joie et se battant pour avoir les meilleures places. Verhaeren, Hugo, Zola, tous mettent dans leurs œuvres cette foule, ce monstre de foule. Tandis que les criminologues, Siegel en Italie, Tard en France, vont se pencher sur la foule dans son aspect essentiellement criminel. En 1895, le docteur Le Bon écrit « Psychologie des foules ». Ce petit opuscule connaîtra, comme d'autres livres minuscules, le discours, par exemple, sur la servitude volontaire de la Boétie ou le prince de Machiavel, un immense succès. Il en est du reste le prolongement et répond par-delà les siècles, avec les arguments scientifiques de l'époque, de la fin du XIXe siècle, aux questions restées sans réponse sur les ressorts du lien de domination. C'est en partant de cet ouvrage que j'évoquerai donc successivement le phénomène de mobilisation de l'homme en foule et ses conséquences. Dans un premier temps, donc, le phénomène. Ce phénomène, on pourrait le résumer en un théorème pour faire scientifique, même quand on est de sciences humaines, présumées de ce fait non exactes, On pourrait faire un théorème, tout homme plongé dans une foule voit son état de conscience modifié. Alors, juste un tout petit exemple, ils sont des milliers, riant, jeunes filles, jeunes garçons, hommes et femmes de tous âges, sur tous les visages, le même sourire immense, dans tous les yeux, la même quête. Où est-il? Que dit-il? Là-haut, sur l'estrade, dominant cette immense foule, un homme, point minuscule, mais dont la voix vibrante est relayée par de multiples haut-parleurs. Moi, votre guide, Ich seine Führer, je conduirai le peuple de l'Allemagne éternelle vers la victoire contre l'hydre communiste. Moi, votre Führer, je vous fais rentrer aujourd'hui dans votre patrie d'origine, dans le grand Reich qui apportera au monde sa valeur et sa force. À la fin du discours, de toutes les poitrines soulevées par l'émotion, sortira en même temps le cri d'allégeance, de bonheur, de communion. Des milliers de mains se tendront ensemble, en synchronie parfaite, pour accompagner ce cri qui soulèvera la foule comme une vague sous l'effet d'un vent violent. 1938, l'Anschluss. Alors, vu dans nos manuels, c'est quelque chose de grisâtre. Vu à travers les images d'archives, c'est saisissant. Le Bon, en 1938, était mort depuis 7 ans. Mais il avait écrit, en 1924, « L'évolution de l'Europe vers diverses formes de dictature » et décrit cette ascension fulgurante de premiers ministres ou chanceliers ou généraux ou maréchaux se faisant donner les pleins pouvoirs par un peuple fasciné et galvanisé. Le premier point de rencontre entre les intuitions, dirons-nous, le bonienne, et les découvertes des neurosciences, c'est le rôle central de l'émotion. Ex movere, le mot parle de lui-même dans son étymologie, c'est ce qui remue, ce qui fait bouger, ce qui pousse à l'action. En effet, la foule psychologique dont Le Bon étudie les réactions, il la définit ainsi, la réunion de plusieurs personnes soumises à une émotion forte, du fait d'un événement, d'une information ou d'un discours. Cet élément central de l'analyse lebonienne est passé inaperçu de ses nombreux détracteurs qui n'ont voulu voir dans sa théorie qu'une variante de la psychologie des masses dont Reich et d'autres feront leur miel. Or, la masse est statique, tandis que la foule dont s'occupe Le Bon est en mouvement, elle est expectante, elle est prête à obéir à la suggestion, elle est, dit-il, éminemment suggestible parce qu'en proie à l'émotion, peur ou haine ou au contraire, joie ou amour. Le Bon, né en 1841, a 28 ans lorsqu'éclate la Commune de 1870. Il décrira dans les premières pages de Psychologie des foules le phénomène suivant, dont il a été témoin. Une foule excitée par l'annonce de la présence allemande sur les collines environnant Paris veut mettre à mort un Parisien qui, passé l'heure du couvre-feu, a laissé sa lampe allumée. Les cris fusent « À mort le traître !» et ces cris font comprendre à Le Bon qu'il le soupçonne de faire ainsi un signal aux Allemands. Le Bon tente en vain de leur faire admettre que les Allemands ne peuvent, à la distance où ils sont, quelques 7 kilomètres sur la colline de Suresnes, par là percevoir ce signal. En vain. La foule est sur le point d'assassiner l'homme lorsque un des meneurs, par crainte peut-être des représailles, va donner un autre mot d'ordre. Tous à l'hôtel de ville. Et là seulement, la foule va refluer. Alors deux choses ont frappé Le Bon et vont, 20 ans après, le pousser vraisemblablement à écrire Psychologie des foules. Deux choses l'ont frappé, l'instantanéité et la simultanéité. Il va dès lors parler d'unité mentale des foules, comme si le « moi » mis en lumière, là aussi, 20 ans plus tard, par les recherches de Sigmund Freud, comme si ce « moi », lorsque l'homme était plongé en foule, eh bien disparaissait au profit d'un « moi » collectif dans lequel son individualité se fondrait. Il va aussi parler, en bon médecin, de « contagion des sentiments ». Tandis que Gabriel de Tarde, juriste, emploiera le mot d'imitation. Nous venons de l'entendre, les neurosciences ont retenu plutôt le second terme, le terme d'imitation qui est aussi le premier stade de l'apprentissage cognitif. À propos de premier stade, Freud et Le Bon vont parler de régression de l'homme en foule. Régression à un stade primitif, pour Freud, il parle de pensée primaire, voire à un stade animal, il désigne la foule souvent par le mot « horde », régression infantile pour Le Bon. Or, les neurosciences nous apprennent que l'alerte neuronale qui suit la perception sensorielle d'un événement bouleversant, positif ou négatif du reste, peut déclencher l'action instantanée qui va court-circuiter le cortex frontal, le néocortex. Alors, les connaissances à l'époque sont embryonnaires, évidemment, sur le fonctionnement cérébral. Donc Freud va raisonner par analogie. Et Le Bon aussi. Ils vont être frappés par l'analogie entre l'état hypnotique dans lequel Charcot, qui, à la Salpêtrière, ouvre largement ses consultations, plonge les névrosés qu'ils souhaitent guérir, et ils vont donc comparer l'état agentique, comme on dit aujourd'hui, de la personne qui est plongée dans l'hypnose et de la personne qui se trouve en foule. Freud, comme on le sait, adepte lui aussi à ses débuts thérapeutiques du pendule et de l'hypnose, abandonnera cela au profit de l'exploration par le thérapeute des libres associations dans le discours du patient qu'on se contentera d'allonger sur le célèbre divan. Le bon livre Freud, il correspond avec lui, mais il ne va pas, comme Carl Jung, extrapoler de l'hypothèse d'un inconscient individuel à celui d'un inconscient collectif. Cependant, parce qu'il faut bien nommer ce fond de sentiment habituellement caché par l'éducation, par le vernis de la civilisation qui refait surface dans les comportements violents de la foule, il va parler de stratification atavique ou encore de l'âme des peuples, hein, qui serait donc ce substrat culturel véhiculé par la langue, illustré par l'art, transmis par les rites sociaux, la littérature, etc. Ce qu'on appelle en sociologie donc les représentations mentales et les représentations sociales. Là encore, les neurosciences sont d'un précieux secours. Elles nous apprennent que le nerf vague garde la mémoire des chocs psychologiques violents et qui ont été ressentis, que ce soit le charme du premier baiser ou l'horreur du premier attentat dont on est spectateur. Elles nous apprennent aussi que la réactivation mémorielle peut se faire par analogie du choc initial, lors d'un événement ou d'une parole qui va provoquer la mise en route de ce fonctionnement par association propre à ce que certains vulgarisateurs actuels des neurosciences appellent l'intelligence émotionnelle, j'emploierai le mot faute de mieux. À ce titre, et sans qu'il soit besoin de cette hypothèse hasardeuse, malgré tout, d'un inconscient collectif, on peut comprendre comment l'histoire, avec un grand H, enseignée à tous les enfants d'une même société, surtout en France, même programme, cette histoire qui véhicule justement à la fois les triomphes et les gloires, mais aussi les défaites et les humiliations nationales, peut interagir. D'une part avec l'histoire personnelle du sujet et ses propres traumas, pertes, deuil, échec, ou encore joie, succès, gains, etc. Et d'autre part, et surtout pour la mobilisation qui nous occupe ici, avec les événements et les discours politiques. Dans les bribes du discours d'Hitler cité au début de cette partie, on entend bien cette réactivation. Vous, Autrichiens, vous êtes Allemands, c'est l'histoire qui nous a séparés. Et l'histoire a fait aussi la déchéance de cette grande Allemagne qu'il me faut aujourd'hui ressusciter, hein, messianisme. Les neurosciences nous apprennent aussi que le lien est étroit entre mobilisation et opinion. Opinio veut dire « je choisis » et se conjugue d'habitude au singulier. Or, le circuit court de l'émotion, qui ne laisse pas sa chance au néocortex d'intervenir, d'inhiber justement l'excès d'émotion qui peut fausser le jugement, fait que l'opinion s'inscrit sans même passer par le néocortex. Donc, par le même mouvement, on aura action et opinion. Alors, dans l'action collective, eh bien, on pourrait aussi dire qu'au fond, on a affaire au résultat d'un circuit court collectif. Hein, c'est-à-dire partagé au même moment par tous ou par une majorité de citoyens. Cette opinion née d'un événement traumatique, elle peut être réactivée. Par exemple, à chaque anniversaire. Il y a 2 jours, les Palestiniens ont fêté la Nakba, hein, la catastrophe pour eux, c'est-à-dire la création d'Israël le 14 mai 1948. Et vous avez pu voir, certainement comme moi, à la télévision, que non content d'actions pacifiques, hein, se présenter à la frontière d'Israël avec des clés représentant les maisons dont ils ont été exclus, etc. Ils ont aussi, se sont aussi livrés, bien sûr, à des actes de violence, à des jets de pierre ou à des jets de projectiles beaucoup plus agressifs, contre leur intérêt même. Bilan 10 morts. C'est-à-dire qu'on a aussi, et là je ne peux pas le développer, je n'ai pas le temps, mais on a aussi chez Le Bon cette idée que la foule agit y compris contre son intérêt, hein, tant la passion est forte et tant elle est débordée par l'émotion. Voilà un petit peu le tableau général. Voyons maintenant les conséquences. Alors, j'attire votre attention sur les conséquences, sur la subdivision que je fais dans ces conséquences entre les conséquences actuelles, qui sont une désacralisation de la politique ou une, disons, que la confrontation des neurosciences avec la politique et les résultats sont ressentis comme une menace. Une désacralisation de la politique, une menace de désacralisation et une menace de soupçon sur la démocratie. Ça, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous verrons ce que j'espère pouvoir promouvoir par ces quelques paroles aujourd'hui, et peut-être par des écrits plus tard, qui est, demain peut-être, les conséquences pourraient être une juste mesure du réel. Car dans ce réel, nous allons le voir, les structures ne sont pas en cause, ou très faiblement en cause. Mais cela, bien que Montesquieu ait écrit « il n'y a pas de bonté absolue dans les lois », nous restons persuadés que les structures sont absolument déterminantes. Je tenterai de vous démontrer le contraire. Donc, les conséquences. Il ne faut pas minimiser l'ampleur du séisme. Passer du concept de raison à celui de néocortex est déjà une aventure. Que dire si l'on passe de devoir de mémoire à réactivation mémorielle, ou pire, syndrome post-traumatique, si l'on passe de révolution à passage à l'acte. Au fond, ça concerne les mots, hein, le contenant. Maintenant, sur le contenu, le traumatisme est également très important. Comment continuer à penser que les comportements humains puissent être une source légitime de la désignation des gouvernants ou d'une prise de décision engageant l'avenir du pays? Cela supposerait qu'il n'y ait pas manipulation de l'opinion fondée sur l'émotion. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Une mère n'en peut-elle plus d'aimer son fils paralysé et met-elle fin à ses souffrances? Ce malheur insondable servira d'accroche pour l'approbation de l'opinion par l'opinion d'une loi sur l'euthanasie. Les larmes du public à peine séchées, le projet de loi est déjà sur le bureau de l'Assemblée. Un juge frais et moulu de l'ENM a-t-il failli dans sa recherche de la vérité sur les crimes sexuels? L'opprobre s'étendra à l'ensemble de l'institution du juge d'instruction et tôt ou tard, le pouvoir en décidera l'abolition. De même, lorsqu'un comportement s'inscrit clairement à l'encontre des lois de la République, eh bien, il faut que des événements soient là pour pousser l'opinion à accepter les mesures qui seront prises. Ainsi, une femme voilée rentre à l'Assemblée nationale le 26 novembre 2009. Deux braqueurs de banque cachés sous un hijab le 10 janvier 2010 vont frapper l'opinion et vont rendre possible, finalement, l'interdiction. Alors, la démocratie se trouve évidemment en question. Faut-il penser que la démocratie directe peut échapper? Eh bien, écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est par référendum que le 12 novembre 1933, 95,1% d'Allemands ont autorisé Hitler à sortir de la SDN. C'est 89,9% de citoyens allemands qui ont approuvé le 29 mars 1934 la dévolution des pouvoirs du chancelier et de président du Reich à Hitler. C'est 98,9% des Allemands et 99,75% des Autrichiens qui ont approuvé le 10 avril 1938 l'Anschluss. Sans aller jusqu'en Allemagne, c'est avec des scores comparables que Napoléon a fait approuver un tout petit texte de 4 lignes. Le premier consul sera sacré empereur, première phrase à peu près de mémoire, deuxième phrase, la fonction sera héréditaire. Et Louis-Napoléon Bonaparte n'eut aucun mal, 4 ans seulement après le séisme de la Révolution de 1848, après l'instauration du suffrage universel, mais seulement masculin, ça a quelque chose à voir à mon avis, a pu rétablir l'Empire. Qu'en est-il maintenant de la démocratie représentative? Les assemblées ne sont pas à l'abri, pas plus que le peuple tout entier. Elles aussi, sous l'empire d'une exaltation ou d'une excitation forte, peuvent devenir des foules, au sens psychologique du terme défini par Le Bon. C'est dans la noble enceinte du Palais Bourbon que Jules Ferry se vit conspué, insulté et même battu au cri de « le Tonkinois à mort » après l'affaire du Tonkin. Dans les partis politiques, eh bien, c'est la même chose, on peut assister au même phénomène d'échauffement. C'est dans la salle des fêtes de la Hofbrauhaus à Munich que le 24 février 1920, Hitler fit applaudir par les socialistes venus l'entendre, non seulement les points proprement socialistes du programme du Parti des Travailleurs, mais aussi les points 5, 6, 7, 23 et 24, résolument antisémites. Juifs exclus de la citoyenneté, exclus des médias, exclus de la vie politique. Alors que faire? Nous terminerons cette deuxième partie par justement quelle devrait être la perception exacte des causes qui ne sont pas des causes en réalité structurelles. Deux causes très importantes. La première, le facteur temps. Le Bon disait en substance qu'un demi-siècle au moins sépare l'élaboration d'une idée politique et ensuite sa réception par différents adeptes. De sa descente dans l'âme des foules, dit-il avec son vocabulaire d'époque, où elle acquiert la force invincible d'une croyance. plus de 50 ans séparent la publication du manifeste du Parti communiste en 1848 de la révolution bolchevique marxiste-léniniste de 1917. Plus de 70 ans séparent la parution de « Les Juifs rois de l'époque » d'Alphonse Toussnel, disciple de Fourier, et la rédaction de Mein Kampf en 1920. Ça pour les causes lointaines. Pour les causes immédiates. Les causes immédiates, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé d'empathie. Alors, avec les réserves qui ont été faites par mon illustre prédécesseur à cette tribune, je vais tout de même, en ayant conscience que peut-être le terme n'a pas la précision que je croyais, mais je vais tout de même m'en servir, faute de mieux. Écoutons Hitler lorsqu'il raconte dans Mein Kampf cette réunion dont nous avons parlé tout à l'heure. Un brasier était allumé. Dans sa flamme ardente se forgerait un jour le glaive qui rendra au Siegfried germanique la liberté et à la nation allemande la vie. Vous remarquez la radicalité des termes. L'empathie, chef, foule, repose, à l'évidence lorsqu'on regarde l'histoire, repose sur la capacité de ce chef à être radical, bref, imagé dans ses propos. L'empathie, foule, chef, à la différence de la sympathie, mais alors là, je ne me lancerai pas plus avant parce que j'ai cru comprendre que je n'étais pas tout à fait dans la ligne. D'après moi, la sympathie supposait un acte volontaire et l'empathie pas, mais bon, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. L'empathie, donc, chef, foule, est absolument primordiale. L'empathie n'est pas seulement entre les membres de la foule. Et les neurosciences nous apprennent que dans un groupe, ce sont les plus convaincus, les plus forts, les plus violents qui vont provoquer l'imitation. Donc ça s'applique tout à fait au chef. Les sondages, là aussi on a un phénomène d'empathie. Pourquoi est-ce que les sondages qui ont été faits comme instrument de mesure quantitative des désirs, des goûts, etc. d'une société sont devenus, ce qu'avait d'ailleurs prévu Bourdieu d'une certaine manière, il faut le reconnaître, sont devenus prescriptifs au lieu de rester prédictif. Il joue sur l'empathie, il joue sur le désir de conformité, très bien mis en lumière dans la psychologie des groupes par Milgram aux États-Unis. Le désir de conformité. Si 70% pensent que telle chose est bien, vais-je me mettre en état d'exclusion moi-même, hein, l'exclusion dont on a parlé tout à l'heure. D'autres effets sont différents, par exemple l'effet underdog. Le chef de l'État, par exemple, aujourd'hui, a des taux très bas de popularité, autour de 20%. Mais ceci peut susciter une sympathie, précisément, et peut susciter cet effet underdog, c'est-à-dire que le public va prendre le parti de celui qui est en mauvaise position pour la compétition qui s'annonce. Ce ne sont simplement que des exemples, on pourrait en citer beaucoup, de l'interaction entre empathie et vie politique. Les images, maintenant. L'empathie chef-foule repose sur les images. La foule pense par image, écrit Gustave Le Bon. Tchakotine, plus tard, en 1939, dans Le viol des foules par la propagande politique, parlera de ce rôle de l'image symbole, symbolique, vouloir ensemble. Symbole, émotion et mobilisation sont tout à fait liés. Dernière chose, l'image, lorsqu'elle est de feu, on a trouvé le mot de feu dans les phrases que je vous ai citées tout à l'heure, lorsqu'elle est visuellement de feu, les tours jumelles du 11 septembre, les drapeaux brûlés, les voitures brûlées, le burn, baby burn du Black Power aux États-Unis dans les années 68, l'incendie du Reichstag, l'incendie de Rome, on n'en finirait plus de les citer, ces images sont tout à fait propres à l'émotion, à susciter l'émotion des foules. A suscité le réflexe de Pavlov. Pavlov, qui était un ami donc de Tchakotine, et Tchakotine lui a emprunté cette image. Alors pour finir, cette fois vraiment, que faire Que faire devant ce constat en conclusion, très rapidement, l'équilibre du milieu. Je ne développerai pas Taine, repris par Le Bon au XIXe siècle, David Easton au XXe siècle, dans son analyse systémique, insiste beaucoup sur l'équilibre du milieu, l'équilibre du système. Donc tout déséquilibre, externe ou interne, fragilise une population qui, de ce fait, va être plus facilement soumise à la manipulation. Deuxième chose, proposition. Là aussi, politiquement incorrecte, mais enfin, pourquoi pas. Ne pas passer tout et en tout du mos maiorum à la majoritas. Le mos maiorum a élaboré un certain nombre de valeurs sur lesquelles repose une société, peut-être ne pas toutes les remettre à la décision populaire. Interdire ou emprisonner le meneur, contre-exemple de Staline, d'Hitler, emprisonner un meneur finira toujours par trouver le moyen de faire passer son message et de prendre le pouvoir. Préserver le pluralisme dans la société, oui, Mais on l'a vu, les partis ne sont pas une garantie. Parfois même, il y a une surenchère de violence par les partis. Pluralité dans l'information, oui. Mais il faut savoir que ce n'est pas, encore une fois, un absolu. Il est clair qu'un taux de 57 ou 56% de rejet, par exemple, lors du référendum de 2005 d'un texte européen, est bien inférieur au taux de sortie de la SDN qu'on a pu voir tout à l'heure. Néanmoins, il ne faut pas confondre la cause et les effets. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a une information pluraliste en France, c'est aussi parce que la mesure n'était pas radicale. Un référendum sur la sortie de l'euro aurait beaucoup plus de chances de provoquer un véritable mouvement de foule et un rejet massif. De même, les écologistes en ce moment proposent un référendum sur le nucléaire pendant que nous sommes encore impressionnés par la catastrophe de Fukuyama. Les nouvelles technologies, enfin, les nouvelles technologies sont-elles une aggravation ou pas de ce phénomène ? Eh bien, elles jouent dans les deux sens. Évidemment, lorsqu'on peut prendre une image sur un téléphone portable, l'envoyer sur Internet, le faire circuler sur Facebook, on a vu avec les révolutions de la rive sud de la Méditerranée qu'effectivement, cela avait un énorme impact. Mais ça ne fait en réalité qu'accentuer l'instantanéité et accentuer l'ubiquité. Alors la solution, en deux mots, la solution, eh bien, c'est de restaurer le temps, de passer du réflexe à la réflexion ou de revenir du réflexe à la réflexion. En effet, le pouvoir du cerveau sur l'humain est comme celui d'un monarque constitutionnel, limité et partagé. Que ce soit le fruit de l'évolution ou un petit bijou imaginé en fin de création, le néocortex est en tout cas, certes, au sommet, mais pas seul. Très puissant, mais pas tout puissant. Il partage le pouvoir avec des entités qui, pour lui être peut-être inférieures en termes de verticalité, et encore pas toujours, je crois que j'avais... n'en sont pas moins extrêmement prégnantes. Le cerveau reptilien, l'hippocampe, l'amygdale, le nerf vague, l'hypophyse, je m'excuse, je ne maîtrise pas tout ça, je ne fais que le citer. C'est en eux que naît et se propage l'émotion qui a ce pouvoir immense de brouiller les pistes, figer les gestes, sélectionner les images, dès que l'alarme neuronale est déclenchée. Or, c'est le moteur même de la révolte, de la révolution, mais aussi de l'adoration du chef, du maître, du petit père des peuples, d'Uche, guide ou quel que soit son nom. C'est pourquoi il importe que les conclusions que nous pourrons faire sur la confrontation entre les neurosciences et les politiques soient connues. C'est pourquoi il importe de redonner du temps de réflexion afin que ne soit pas paralysée l'action du néocortex et faire ainsi que sa royauté ne soit pas un chiffon de papier.
C'était Catherine Rouvier qui évoquait dans son intervention la place de l'émotion en politique. Vous avez pu écouter précédemment François Daubert sur l'éthique en finance et les intérêts de l'État. Restez en notre compagnie et téléchargez sans plus tarder les trois autres volets du colloque « Regard sur l'homme contemporain » consacré à la politique et aux médias. Retrouvez notamment les interventions de Monique Cantos-Perber, directrice de l'ENS, sur la notion d'intérêt général et de bien commun, l'intervention du philosophe Pierre Manant sur la place de la politique dans la vie humaine, celle du professeur de droit public Philippe Louveau et l'influence des institutions sur notre société, ou encore Philippe Kourilski et Alain Berthoz sur l'altruisme politique et l'intérêt des neurosciences sociales pour comprendre nos réactions. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.